édition Bois Mamienne du 12 mai 2020 pour Facho Compatible, une émission du collectif Manifeste Rien.
Ce n'est pas la répression qui est l'assise la plus solide de la domination. Non, ce n'est pas la répression, mais l'idéologie. Une hégémonie culturelle qui amène les dominés à adopter la vision du monde des dominants et à considérer la politique économique qui en découle au mieux comme souhaitable et au pire comme la seule possible. L'affaiblissement de cette hégémonie signifie une crise de légitimité, un esprit de scission.
Le personnel hospitalier qui manifeste avec banderoles et drapeaux syndicaux dans plusieurs hôpitaux illustre l'ampleur de la crise de légitimité qui touche le gouvernement Macron. Alors que celui-ci appelle à célébrer et applaudir les héros de première ligne, le désaveu des hospitaliers est à la hauteur d'une colère populaire qui grondent sans pouvoir se visibiliser du fait du confinement. Le gouvernement lui prépare ses réponses répressives et idéologiques pour juguler et détourner cette colère populaire. La crise de légitimité antérieure à la pandémie est accélérée par celle-ci et suscite une accélération du processus de fascisation. Fascisation. Fascisation.
Oui, alors attention, il convient de préciser le concept de fascisation pour éviter les compréhensions possiblement complotistes et réductionnistes de l'expression. La fascisation n'est pas le fascisme. Le fascisme qui, lui, est un régime de dictature ouverte, se donnant pour objectif la destruction violente et totale des opposants. Non, non, le processus de fascisation n'est pas non plus une volonté de la classe dominante ou un complot de celle-ci. La fascisation est en fait le résultat des réponses autoritaires lors d'une crise de légitimité. C'est-à-dire une gestion à court terme de la conflictualité sociale, crise par crise, mouvement social par mouvement social. C'est un modèle autoritaire reflétant la crise de l'hégémonie culturelle de la classe dominante. La fascisation ne mène pas systématiquement au fascisme, non. Elle exprime des séquences historiques où les dominés ne croient plus au discours idéologique dominant, mais sans, pour autant encore, arriver à constituer un « nous » susceptible d'imposer une alternative. C'est très important, ce « nous ».
La régression sociale produite par le néolibéralisme depuis les années 80 sape progressivement les conditions de la légitimation de l'ordre dominant. Le néolibéralisme, par son culte de l'individu, des gagnants et des premiers de cordée, son retrait de l'État des fonctions de régulation et de redistribution, sa destruction des protections sociales minimum, produit un déclassement social généralisé avec une redistribution massive des richesses vers le haut. La crise de légitimité n'a cessé de se déployer. La progression de l'abstention constitue un des thermomètres de cette illégitimité grandissante. L'élection d'Emmanuel Macron, avec seulement 18,19% des inscrits au premier tour, souligne l'ampleur de celle-ci.
Au fur et à mesure que se développe l'illégitimité, croissent les débats écrans et l'usage de la répression policière. Donc, si vous voulez, les multiples débats sur le communautarisme, le voile, la sécession des quartiers populaires illustrent le premier aspect. Et les violences policières, jusque-là essentiellement réservées aux quartiers populaires, à l'encontre des gilets jaunes et des opposants à la réforme des retraites, concrétisent le second.
C'est là le processus de fascisation et ses dimensions idéologiques. Construction d'un bouc émissaire dérivatif des colères sociales, juridique, entrée dans le droit commun de mesures jusque-là limitées aux situations d'exception, et politique, doctrine de maintien de l'ordre. Contrôle, contrainte, mise en scène de la force, répression sont les réponses envisagées aux colères sociales qui s'exprimeront inévitablement. Après la pandémie.
Et si ce 12 mai 2020, le bilan humain de la gestion autoritaire du confinement est déjà significatif de la préparation policière de l'après-pandémie, avec déjà une dizaine de décès suite à des contrôles de police depuis le début du confinement dans les quartiers populaires, les habitants y subissent les pratiques d'un appareil de police gangréné par le racisme, infiltré de manière non marginale par l'extrême droite, habitué à l'impunité.
Si ce bilan humain du confinement est déjà significatif, donc, l'offensive idéologique s'annonce d'autant plus importante. Car l'expérience des gilets jaunes et du mouvement contre la réforme des retraites ont produit des acquis palpables, à savoir les solidarités de syndicalistes, de la RATP, de la SNCF par exemple. Je veux dire des solidarités qui étaient absolument inexistantes lors de la révolte des quartiers populaires de novembre 2005. Des solidarités qui témoignent une nouvelle fois de l'approfondissement de la crise de légitimité. La pandémie révèle en fait ce que l'idéologie dominante parvenait encore à masquer. À savoir les pénuries de masques, de personnel de santé et de matériel médicaux. Tout cela visibilise la destruction des services publics. Oui, la destruction des services publics. La faim dans certains quartiers populaires illustre la paupérisation et la précarisation massive. La gestion autoritaire du confinement et sa politique de l'amende révèlent un modèle de citoyenneté infantilisante et méfiante. Le maintien de l'activité dans des secteurs non vitaux, en dépit du manque de moyens de protection, démasque l'ancrage de classe des choix gouvernementaux. Les aides et allègements de charges aux entreprises, l'absence de mesures sociales d'accompagnement, des baisses de revenus brusques liées au confinement, annulation des loyers et des charges, l'annonce de mesures de restriction temporaires des conquis sociaux, durée de travail, congés, les conditions du déconfinement scolaire, etc. Mais tout ça finit par déchirer ce mythe-là du discours sur l'unité nationale. Il faut quand même avoir en tête que le déconfinement, là, survient dans ce contexte de colère sociale massive, d'écœurement des personnels de santé, de quartiers populaires au bord de l'explosion, etc. En mai, alors que la grande majorité des enseignants est légitimement préoccupée par les conditions matérielles et pédagogiques de la reprise des cours, l'attention est orientée vers un pseudo-danger communautariste. Un détournement idéologique de l'attention par la distribution à tous les établissements scolaires d'une fiche. D'une fiche intitulée « Coronavirus et risque de repli communautariste ». Et tout ça pour préparer le déconfinement. Alors écoutons.
Aujourd'hui, la violence de la pandémie causée par un nouveau virus nous confronte à l'incertitude sur de multiples plans, en matière médicale, sociale, économique, culturelle. La crise du Covid-19 peut être utilisé par certains pour démontrer l'incapacité des États à protéger la population et tenter de déstabiliser les individus fragilisés. Divers groupes radicaux exploitent cette situation dramatique dans le but de rallier à leur cause de nouveaux membres et de troubler l'ordre public. Leur projet politique peut être anti-démocratique et anti-républicain. Ces contre-projets de société peuvent être communautaires, autoritaires et inégalitaires. En conséquence, certaines questions et réactions d'élèves peuvent être abruptes et empreintes d'hostilité et de défiance. Remise en question radicale de notre société et des valeurs républicaines, méfiance envers les discours scientifiques, fronde contre les mesures gouvernementales, etc. Voilà. Alors voyez, en d'autres termes, dénoncer l'incapacité ou les carences de l'État en matière de protection ou exprimer un désaccord contre les mesures gouvernementales devient un indicateur de communautarisme. Non mais, une autre partie du document situe les actes du gouvernement sans contestation possible du côté de la science et des valeurs républicaines. Et toute critique de ces actes est située, lui, du côté de l'irrationalité, du complot et du communautarisme. Alors bien sûr, bien sûr, une telle introduction au problème ne peut déboucher que sur un appel à la délation. Ah mais oui, on en est là, et qui doit s'étendre jusque dans la cour de récréation. Ah mais bien sûr. Être attentif aux atteintes à la République qui doivent être identifiées et sanctionnées. Mobiliser la vigilance de tous, les enseignants en cours, les CPE et assistants d'éducation dans les couloirs et la cour, pour repérer des propos hors de la sphère républicaine. Alerter l'équipe de direction afin qu'elle puisse effectuer un signalement dans l'application fait établissement. Informer l'inspecteur d'académie en lien avec la cellule départementale des services de l'État dédiée à cette action et mise en place par le préfet. Alors voilà, non mais il faut pas se leurrer, je veux dire, la cible de cette vigilance et de cette délation se situe dans les quartiers populaires. Ah bah oui, l'affiche en question fait référence au plan national de prévention de la radicalisation, prévenir pour protéger, du 23 février 2018. Non mais c'est un plan national qui s'applique plus particulièrement dans les quartiers sensibles. Non mais c'est écrit comme ça, qui s'applique plus particulièrement dans les quartiers sensibles.
Même la politique étrangère française fait partie de l'affiche coronavirus. Il est demandé aux enseignants de se faire les défenseurs de la politique étrangère.
Aborder les questions sur la nouvelle situation géopolitique en lien avec la pandémie, en montrant à la fois la complexité des relations internationales et la place de la France.
Oui. Il est vrai que les préoccupations africaines du gouvernement sont particulièrement fébriles, comme en témoigne une autre note, cette fois du ministère des Affaires étrangères. Cette note du 24 mars 2020 du Centre d'analyse de prévision et de stratégie s'intitule
« L'effet pangolin, la tempête qui vient en Afrique ?» Point d'interrogation.
L'analyse développée annonce une série de crises politiques en Afrique comme conséquence de la pandémie. En Afrique notamment, ce pourrait être la crise de trop qui déstabilise durablement, voire qui met à bas des régimes fragiles ou en bout de course. Elle en déduit la nécessité de trouver d'autres interlocuteurs africains pour affronter cette crise aux conséquences politiques. Elle appelle donc à de nouvelles ingérences, c'est-à-dire à des interventions sans autorisation ni droit. Enfin, elle précise la nature de ses nouveaux interlocuteurs sur lesquels la stratégie française devrait s'appuyer. Les autorités religieuses, les diasporas, les artistes populaires et les entrepreneurs économiques et businessmen néolibéraux. Sur le plan international également, l'après-pandémie est en préparation et il a la couleur de l'ingérence impérialiste.
L'annonce de l'utilisation de drones et autres outils technologiques pour la surveillance du déconfinement est dans la même teneur. Comme le souligne l'Observatoire des libertés et du numérique, le OLN, ces nouvelles technologies de surveillance sont porteuses d'une régression des libertés publiques.
Chacune des crises qui ont marqué le 21e siècle ont été l'occasion d'une régression de la liberté publique. Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont vu l'Europe adopter la directive sur la rétention des données de connexion électronique et l'obligation faite aux opérateurs de stocker celles de tous leurs clients. Les attentats terroristes qui ont touché la France en 2015 ont permis le vote sans débat de la loi renseignement. Ils ont aussi entraîné la mise en place de l'état d'urgence, dont des mesures liberticides ont été introduites dans le droit commun en 2017, si.
En bref, la pandémie de COVID-19 menace d'entraîner de nouvelles régressions.
Yes! Discrimination, atteinte aux libertés, à la protection des données personnelles et à la private life.
Et une atteinte à la vie privée, évidemment. C'était le deuxième volet de l'édition Bois Mamienne du 12 mai 2020 pour Facho Compatible, une émission du collectif Manifeste Rien.